C'est une île gigantesque, la plus grande du monde et pourtant la moins densément peuplée de la planète. 2 millions de kilomètres carrés pour seulement 56 000 habitants. Voici le Groenland, cet ancien pays vert qui est aujourd'hui un des territoires majeurs d'observation du changement climatique. Une île qui fait figure d'immenses laboratoires à ciel ouvert pour les scientifiques, mais qui est également une terre rare qui attise toutes les convoitises. La Tête au Carré lui consacre son dossier pour en explorer les différentes facettes. J'attends vos questions et vos messages dès maintenant sur le site de l'émission. Je vous présente mes invités dans un instant. À la une de la science, la santé, le poids des Français, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, avec les premiers résultats de la cohorte Constance, 102 000 volontaires qui ont accepté de fournir leurs précieuses données de santé aux chercheurs. Et les constats, l'obésité semble se stabiliser en France autour de 15%.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy, consacrée aujourd'hui à un sujet douloureux, la torsion du testicule. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par Chantal Le Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le Groenland, son climat, son écologie et sa société, donc aujourd'hui dans le dossier d'émission avec mes invités, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, la palynologue Émilie Gauthier et l'anthropologue Jean-Michel Huctin. Bonjour à tous les trois. Bienvenue. Vous allez bien?
Bonjour.
Allô, quand on répit ici.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est en Groenlandais.
C'est en Groenlandais. Kalaallisut.
Jean-Michel Huctin, puisque vous parlez le groenlandais. Vous avez même un nom groenlandais, c'est ça?
Voilà, j'ai vécu 4 ans dans une communauté sur la côte ouest du Groenland. Et, au bout d'un certain temps, d'une certaine intimité avec cette communauté inuite, eh bien, ils m'ont donné un nom local, et c'est un nom groenlandais, Jens Mikaeli, et c'est toujours aujourd'hui une grande fierté pour moi.
Ouais, est-ce que ce nom veut dire quelque chose de particulier?
Non, en fait, c'est la groenlandisation de la traduction danoise de mon prénom.
Bien, ouais. Ça fait un joli tournure.
C'est une famille qui m'avait adopté lors de mon arrivée là-bas. Ouais. Et j'y tiens beaucoup, bien sûr.
Valérie Masson-Delmotte, est-ce que la fonte de la calotte glaciaire du Groenland peut modifier durablement le niveau des mers? C'est un des sujets abordés dans le livre.
Mais c'est déjà aujourd'hui le glacier qui contribue le plus à l'augmentation observée du niveau des mers. Et puis, cette île Nantis a effectivement la capacité de fournir potentiellement et sur le long terme plusieurs mètres d'augmentation du niveau moyen de tous les océans, avec beaucoup de questions qui restent ouvertes, par exemple sur l'interaction avec la circulation profonde de l'océan Atlantique.
On va en reparler avec vous. Émilie Gauthier, est-ce que vous pouvez lire l'histoire du Groenland dans ses grains de pollen? Comme
oui.
On lit dans une boule de cristal.
Oui, tout à fait. Les grains de pollen vont servir, alors les grains de pollen pas frais, vieux, conservés dans les sédiments, servir à reconstituer l'histoire de la végétation. Et qui dit végétation dit histoire du climat, mais aussi histoire de l'impact de l'homme sur son environnement.
Ouais, et des Vikings en particulier.
Et des Vikings en particulier au Groenland, puisque c'était des agriculteurs.
On va en parler avec vous dans quelques instants. Voilà pour l'ensemble de ces thèmes à aborder donc avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. 15,7% des Français souffrent d'obésité, un chiffre légèrement en dessous de la moyenne de l'Union européenne et qui semble se stabiliser au fur et à mesure des études. Voici aujourd'hui les premiers résultats de la cohorte Constance. 102 000 volontaires tirés au hasard et qui ont accepté de livrer donc aux chercheurs leurs précieuses données de santé. Sébastien Tchernikov, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service nutrition à l'hôpital Georges Pompidou, professeur à l'université Paris-Descartes et co-auteur donc de ces travaux. Alors les nouveaux chiffres sur la prévalence de l'obésité en France, 15,8% pour les femmes, 15,6 pour les hommes. Comment ces chiffres évoluent dans le temps pour bien comprendre ce qu'ils disent aujourd'hui de notre époque?
Alors ces chiffres sur la cohorte Constance qui est dirigée par le docteur Marie-Zins montrent qu'on a des valeurs plutôt attendues par rapport à des études qui ont été menées antérieurement, par exemple l'étude OBPI à laquelle on fait souvent référence, même si les méthodologies d'enquête, on y reviendra sûrement, sont très différentes et rendent bien sûr les comparaisons délicates.
C'était il y a 4 ans, alors depuis 4 ans, les chiffres ont peu évolué, hein, c'est ça?
Alors, on a des chiffres qui sont assez similaires avec ce qui avait été retrouvé il y a 4 ans. Les particularités de la cohorte Constance, en tout cas des données d'inclusion de la cohorte Constance, sont qu'on a des protocoles très standardisés pour mesurer les sujets. Dans les données existantes antérieures, on avait des données qui étaient plutôt déclaratives. Et on sait qu'entre la déclaration et la mesure réelle, il y a souvent un décalage. Donc l'interprétation des données est assez complexe, mais on est en tout cas sur des chiffres assez proches.
On peut peut-être s'y essayer à les interpréter. L'étude précédente dont vous parlez, OBP Roche, était sur une cohorte plus jeune et vous publiez là des résultats qui montrent que l'obésité augmente avec l'âge. Donc si les chiffres sont les mêmes et si vous suivez mon raisonnement, on aurait tendance à dire que l'obésité baisse ou au moins qu'elle stagne.
Alors OBP était une étude, si on rentre dans la technique, l'étude OBP était une étude transversale, donc c'était une pure photographie de l'état de santé de la population. On a ici les données d'inclusion d'une cohorte. La grosse différence, c'est qu'on va suivre ces 200 000 personnes qui vont au final être incluses dans la cohorte Constance pendant une dizaine d'années.
Donc on ne dit pas grand-chose à part que c'est 15% que vous trouvez.
On trouve des valeurs proches, mais c'est un petit peu tôt pour comparer.
Comment sont sélectionnés ces volontaires tirés au hasard là, qui font partie de la cohorte Constance ?
Alors, cette étude, elle est coordonnée par l'INSERM et l'assurance maladie, ce qui veut dire qu'on a une coopération entre les deux structures qui permettent de tirer au sort des personnes qui sont affiliées au régime général de la sécurité sociale. On les tire au sort, soit les personnes acceptent et sont incluses dans l'étude, soit elles refusent. Et à ce moment-là, on a des techniques statistiques pour réinviter des personnes supplémentaires.
Il y a un autre chiffre qu'on lit dans la presse depuis ce matin et beaucoup, c'est qu'un Français sur deux est en excès de poids. Qu'est-ce que ça veut dire être en excès de poids ?
En excès de poids, en fait, c'est un terme du langage courant qui va en fait faire référence au surpoids qui est au-dessus d'un indice de masse corporelle de 25 kg par mètre carré. Et une obésité au-dessus de 30 kg par mètre carré. Donc cet excès de poids du langage courant combine ces deux termes médicaux finalement.
Est-ce que ça veut dire on peut avoir des problèmes de santé quand on est en excès de poids ou c'est pas comme ça qu'il faut le voir ? Enfin, ce chiffre de 1 sur 2, est-ce que c'est associé à des problèmes de santé ?
On sait qu'il y a un continuum entre le poids et plein de facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple la pression artérielle. Plus vous augmentez votre poids, plus la pression artérielle en moyenne va augmenter. Vous savez que les médecins aiment bien avoir des seuils, et donc on va fixer un seuil d'obésité pour dire, au-delà de ce seuil, le risque d'hypertension ou de diabète, par exemple, va être plus élevé.
Alors, dans cette étude, il y a un lien entre les problèmes de poids et le niveau de vie. Donc, vous avez étudié également les critères sociaux des personnes qui vous répondaient. Alors, ce qui est assez étrange, c'est la prévalence homme-femme qui s'inverse. Quand on est très riche, on a plus de chances d'être obèse que si on est un homme, alors que pour une femme, c'est l'inverse. Comment est-ce que vous l'expliquez exactement ?
Alors, dans l'étude Constance, plus on est riche, moins on est obèse, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Par contre, il y a des petites différences à quelques pourcentages près, mais on retrouve cette relation connue dans le monde entier sur le lien entre la fréquence de l'obésité et le niveau de revenu.
Ce que vous voulez dire, Mathieu, c'est que c'est très drôle quand on voit les chiffres. C'est quand on est très riche, c'est l'homme qui a plus de chances d'être obèse. Et quand on est très pauvre, c'est la femme qui a plus de chances d'être obèse. Et c'est flagrant dans les chiffres, c'est une histoire de 30-40%. Vous n'avez pas forcément réfléchi à ça ?
Alors, réfléchi, si. Après, interprété en 30 secondes, non. Par contre, ce qu'on peut donner comme élément d'explication, c'est que ensuite ces données, elles vont devoir être réinterprétées dans le contexte aussi familial de ces personnes. Est-ce qu'elles sont en couple ? Est-ce qu'elles ont des enfants ? Et donc, resituer ça aussi dans le cadre de vie, ce que va permettre la cohorte Constance, puisqu'on a une foule d'informations qui sont collectées dans les questionnaires à l'inclusion.
Donc, les disparités régionales, elles sont réelles aussi sur le territoire ?
Les disparités régionales, elles sont marquées, un peu moins marquées qu'il y a quelques années, mais ça, c'est aussi cohérent avec ce qu'on retrouvait dans l'étude OBP, par exemple.
Il y a une chose intéressante dans l'étude, c'est que vous déterminez la part des Français en obésité métaboliquement saine. J'ai découvert ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Obésité métaboliquement saine, ça veut dire quoi alors ?
Voilà, alors les Québécois disent les obèses en santé, ce qui est un terme assez mignon aussi. Le principe, en fait, c'est de s'apercevoir que l'obésité, quand on la définit avec un critère assez simple ou simpliste comme l'indice de masse corporelle, en fait, c'est une maladie chronique qui est très hétérogène et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes en situation d'obésité qui n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire, pas de diabète, pas d'hypertension. Et c'est ce qui va les caractériser, ils sont métaboliquement sains.
Ils sont nombreux ?
Alors on considère, dans cette étude en tout cas, qu'on avait autour de 25% des hommes et 50% des femmes.
Ouais.
La grande question, qui est une question de recherche, c'est une problématique de recherche médicale, c'est de savoir si cette situation où on n'a pas de facteurs associés à l'obésité va être pérenne au cours du temps, ou est-ce que c'est juste à un moment où on enregistre les données, et finalement, 2-3 ans après, les personnes vont développer un diabète. Donc c'est une situation, on va dire, une problématique de recherche qui nous intéresse beaucoup en ce moment.
Dernière question, Axel.
Oui, une question pas très agréable, mais j'ai découvert ça à la fin de l'étude. Vous avez été conférencier pour deux labos, Lily et Servier, cofondateur de My Good Life, qui est un site qui se propose de récolter des données de santé personnalisées. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trois points-là peuvent vous influencer dans la publication de statistiques qui sont faire parler des données, surtout?
Alors, c'est pour moi exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui nous oblige à déclarer nos conflits d'intérêts et qui enregistre sur un site qui s'appelle le site Transparence. Et donc, je déclare mes conflits d'intérêts et je laisse les lecteurs juger de la pertinence ou non de ces conflits.
Merci beaucoup, Sébastien Tchernikov, à l'occasion donc de l'apparition de cette étude. Axel, à demain.
À demain, Mathieu. Non, demain, je me fais remplacer.
Ah
donc,
oui, c'est vrai, Agnès Fèvre.
À la semaine prochaine.
Une nouvelle voix, ce sera à la Une de la Science. Vous le verrez demain. Merci beaucoup. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les petits mensonges mènent au plus gros. Une étude originale faite par des chercheurs anglais confirme qu'il existe une forme d'habituation chimique dans le cerveau des menteurs. Les mauvaises émotions associées aux mensonges, comme le regret ou la culpabilité, se traduisent par une activité particulière dans les amygdales. Et les chercheurs montrent qu'elle diminue au fur et à mesure que l'on accumule les mensonges. Les menteurs chroniques auraient donc une forme de protection émotionnelle biologique contre leur propre culpabilité. Un algorithme pour prédire les décisions de justice. Le projet est encore parfaitement expérimental, mais cette intelligence artificielle créée par des Américains était capable de prédire avec succès plus de 79% des jugements rendus par la Cour européenne des droits de l'homme en se basant sur la jurisprudence et des cas du passé. Un taux très élevé qui a surpris les chercheurs eux-mêmes, leur faisant dire que les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l'homme se basaient principalement sur des arguments non juridiques. Et puis une tempête se prépare à la surface de Titan, la grosse lune glacée de Saturne. C'est la sonde Cassini qui nous apporte la nouvelle avec une image impressionnante. Elle montre un vortex laiteux, une forme de grosse bosse faite de vent de méthane et qui annonce le début de l'hiver. C'est la première fois que le changement de saison apparaît de manière si précise et si visible sur cette lune de la même taille que la planète Mercure et dont l'atmosphère est composée à plus de 98% de diazote. Le cliché est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, nous partons ensemble au Groenland dans un instant.
Du mauvais côté, mais il y a la noix, autant il y a la noix.
La vie c'est bon, Voodoo Game sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le Groenland, climat, écologie et société, c'est donc un livre collectif qui paraît aux éditions du CNRS. Pour en parler, je suis avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte, la palynologue Émilie Gauthier et l'anthropologue Jean-Michel Huquetin. Et vous avez tous les trois donc contribué à cet ouvrage et les auditeurs nous rejoignent pour en discuter avec les messages et les questions franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Émilie Gauthier, palynologue, s'il vous plaît, précision tout de suite sur votre profession.
Alors, le palynologue étudie le pollen.
Tout simplement.
Tout simplement.
Ouais.
Donc le pollen qui fait éternuer ou celui qui s'est déposé dans les sédiments et qui reste conservé pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années.
Ouais, les deux sont valables. Donc c'est une mémoire extraordinaire, le pollen, pour retracer toute une histoire, au fond.
Oui, c'est une mémoire de la végétation, tout simplement. Ouais. Alors c'est pas la vraie végétation, c'est l'image pollinique de la végétation qu'on va reconstituer. Alors pour ça, par contre, il faut les archives, c'est-à-dire qu'il faut des dépôts sédimentaires qui ont plusieurs milliers d'années.
C'est ça. C'est comme les calottes de glace, au fond, Valérie Masson-Delmotte, c'est un peu le même principe.
Ça se complète en fait. Et c'est vraiment tout l'intérêt d'ailleurs du Groenland comme terrain de jeu pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du climat, parce qu'il y a des sédiments dans les fjords, des sédiments dans les lacs. On peut y trouver des pollens, donc la mémoire de la végétation du Groenland. Et puis sur la calotte, on trouve principalement de la glace et on va analyser l'air, l'eau et puis les impuretés contenues dans la glace. Mais tout ça se complète finalement pour avoir une image d'ensemble, un peu comme un puzzle. Chaque élément apporte un morceau de puzzle pour caractériser les variations passées du climat, de l'environnement.
Sauf que, est-ce que dans les carreaux de glace, on peut aussi extrapoler sur la vie des hommes, sur les territoires justement qui racontent le Groenland en l'occurrence ?
Alors les hommes, ce qui est intéressant, c'est de leur demander à ceux qui vivent sur place,
ceux qui sont là,
qui sont là et qui ont une observation qui remonte quand même pour certains, pour les plus anciens, à plusieurs décennies. Ouais. Donc c'est pour nous, c'est aussi très important de leur donner la parole, de les écouter. Et puis au-delà des témoignages actuels, je pense que en ce qui concerne les sociétés humaines, eh bien les visiteurs du Groenland du passé, je pense aux explorateurs, aux anthropologues, aux missionnaires. Ouais. Nous avons par exemple dans le livre un spécialiste qui a étudié les relevés météo des missions chrétiennes au Groenland au début de la colonisation, et cela nous donne aussi des éléments d'information sur le climat.
Sauf qu'on va encore plus loin avec les grains de pollen, justement, Émilie Gauthier.
Alors, tout dépend de quand commence le remplissage. Donc, on travaille beaucoup sur les archives lacustres. Donc, c'est des lacs qui vont se former après le retrait glaciaire. Donc, dans le sud du Groenland, c'est des lacs qui ont environ 10 000 ans. Mmh. On a un enregistrement de la pluie pollinique depuis 8 000 ans. Et donc, cette pluie pollinique, elle va nous montrer comment a évolué la végétation en fonction du climat. Et puis, tant que les hommes sont des chasseurs-cueilleurs, ils n'ont pas d'impact sur leur environnement, donc on ne les voit pas. Par contre, à partir du moment où ils vont développer des activités agro-pastorales, ils vont avoir un impact sur cet environnement, ils vont le transformer. Et là, on va le voir avec les pollens, avec le sédiment, avec les algues aussi qui se sont déposées dans les sédiments, avec les insectes. Il y a plein de paramètres qu'on peut étudier dans ces archives.
Donc, beaucoup de traces minutieuse à relever pour pouvoir retracer justement un certain nombre d'histoires qui sont parallèles justement. Et...
Oui, tout à fait. Alors, le palynologue va regarder les pollens, mais on travaille vraiment à plusieurs. On prélève les sédiments, on appelle ça une carotte, donc on va découper nos carottes en rondelles et on se les partage, chacun étudie son paramètre.
Valérie Masson-Delmotte, une centaine d'auteurs pour ce livre, dont certains groenlandais d'ailleurs. C'est la première fois qu'un tel travail est réalisé autour de ce pays ?
Alors, il y avait déjà eu quelques travaux historiques. Jean-Michel a d'ailleurs avec lui un de ses ouvrages de référence qui faisait le point sur les connaissances du moment concernant le Groenland. Et nous, en fait, l'idée est venue d'un projet de recherche français pour lequel on avait associé des partenaires, en particulier danois, quelques Canadiens. Et puis, petit à petit, le projet a mûri avec vraiment l'idée d'avoir une vision d'ensemble sur le volet climat, passé, présent, futur, le volet écologie, avec David Grémillet qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui a chapeauté cette partie-là, et puis le volet humain qui clôt le livre parce que c'est peut-être celui qui est parfois le plus méconnu pour le Groenland.
Et on va en parler évidemment tout au long de cette émission. Qu'est-ce qui, alors pour la partie climatique, Valérie Masson-Delmotte, justement, caractérise aujourd'hui le climat du Groenland ?
Alors peut-être en un mot, c'est l'intersection avec des phénomènes de grande échelle. Donc dès qu'il y a un changement dans les courants marins de l'océan Atlantique Nord, ça affecte le climat du Groenland par la température des eaux dans les fjords, qui va agir sur la température de l'air sur les côtes et puis aussi sur ce qui se passe sur la calotte. Même chose avec la circulation atmosphérique de grande échelle, à l'échelle de l'ensemble des hautes latitudes de l'hémisphère nord. Mmh. Sa structure va affecter ce qui se passe au Groenland et puis l'évolution de la banquise arctique également. Et donc le Groenland s'est soumis à ces influences de grande échelle et puis il y a un tas de spécificités locales, on peut parler de microclimat finalement, hein. À l'intérieur de ces fjords, certains plus abrités, d'autres plus exposés au vent. La présence de la calotte entraîne des vents très violents dans certains secteurs. Et donc c'est vraiment un objet d'étude fascinant pour le climat, que ce soit le climat d'aujourd'hui, mais aussi ses variations passées et puis ses variations futures possibles.
Oui, alors justement, sur l'évolution climatique, quand on observe ces carottes de glace, qu'est-ce que ça dit par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans cet endroit, je le disais tout à l'heure, absolument stratégique pour l'observation du changement climatique ?
Alors, c'est une réponse. Je vais faire une réponse en tiroir, un peu comme les poupées russes.
Allez, on y va.
Donc, il y a un réchauffement qui est très spectaculaire depuis les années 1990 au Groenland, hein, qui affecte beaucoup de l'environnement, on va dire, hein, et des activités humaines sur place. Mm-hmm. Et puis, on peut le comparer aux petites variations des derniers siècles. Et on voit que maintenant, on commence à sortir de cette gamme de variations naturelles. Même par rapport à la période médiévale, on commence à atteindre des niveaux plus élevés depuis quelques années. Mais par contre, si on remonte un peu plus loin vers le passé, sur l'échelle de plusieurs milliers d'années, la position de la Terre autour du Soleil a changé, donc la quantité d'ensoleillement en été. Et donc on trouve la trace de périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'années. Mmh. On voit que ça a joué sur la végétation, on voit que ça a joué par exemple sur la quantité de neige. Un climat plus chaud, c'est un climat avec plus d'enneigement.
Ouais.
Et puis après, on a la période glaciaire qui a précédé cette phase chaude actuelle. Et cette période glaciaire, elle est marquée au Groenland par des instabilités extrêmement violentes. Donc il faut imaginer un climat à l'époque au Groenland, 20 à 25 degrés plus froid qu'aujourd'hui. Des conditions comme on trouve aujourd'hui en Antarctique.
Ouais.
Et puis des instabilités très brutales qui se produisent en quelques dizaines à quelques centaines d'années. L'amplitude, c'est de l'ordre de 5 à 15 degrés à cette échelle de temps-là. Et ce sont les conséquences de réorganisation des courants marins, en fait, de l'océan Atlantique pendant ce climat glaciaire. Lorsque les calottes qui ont aujourd'hui disparu, qui couvraient l'Europe et puis l'Amérique du Nord, étaient instables, ça affectait les courants marins de grande échelle et puis il y avait des facteurs amplificateurs autour du Groenland. Mmh. Donc ça permet vraiment d'aller tracer finalement... finalement les caractéristiques des grandes variations passées du climat. Et ça met en avant l'importance en fait, de ces couplages entre les calottes de glace et puis la circulation océanique.
Émilie Gauthier, l'étymologie justement du mot Groenland, elle nous renseigne aussi sur l'évolution hein, du climat au fond et des changements.
Groenland qui veut dire le pays vert,
ouais.
Ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est comment ? Le premier à avoir parlé de Groenland, c'est Éric le Rouge. Alors, on est vraiment dans une histoire de couleurs. Éric le Rouge, donc, qui est banni d'Islande aux alentours de l'an 1000 pour une histoire de meurtre. Il ne peut pas retourner en Scandinavie parce que son père a déjà été banni pour le même genre d'histoire. Donc, il a entendu parler de terre à l'ouest. Mmh. Il y va. Et donc, il s'installe au large de l'Islande et puis il va repérer la côte est. Et puis après, il passe le Cap Farewell et puis il repère les fjords du sud du Groenland qui lui semblent appropriés à l'agriculture, en tout cas à l'élevage. Et donc, il revient et il dit j'ai trouvé un pays magnifique, un pays vert. Venez tous vivre avec moi au Groenland.
Invitation lancée.
Voilà. Et donc, comme il y a une petite pression démographique déjà à ce moment-là en Islande, hein, on est autour de l'an 1000, je l'ai dit, les gens vont le suivre. Donc, 25 bateaux vont partir avec lui, 14 arriveront. C'est le début de cette colonisation viking du Groenland qui durera 450 ans.
Et dont on va parler avec vous tout à l'heure. Valérie Masson-Delmotte, oui.
Moi, j'aime bien dire que c'est la publicité mensongère la plus efficace du monde.
C'est la première publicité mensongère connue, c'est vrai, effectivement. Ouais.
Aujourd'hui, la fonte de la glace, Valérie Masson-Delmotte, ça fait combien de temps, au fond, qu'elle est observée et le phénomène s'accélère aujourd'hui considérablement ?
Alors, observer, tout dépend comment on le fait. On peut travailler avec des photos d'archives aériennes, par exemple, et caractériser l'extension des glaciers côtiers. Ça, on peut le faire à partir du début du XXe siècle, principalement. Ensuite, on a un suivi par satellite vraiment à grande échelle, plutôt depuis les années 90.
Ouais.
Et on a encore beaucoup d'opérations de terrain, en fait, hein, d'instruments qui sont déployés par les collègues danois, par également des collègues américains, beaucoup, pour caractériser l'évolution de ce qu'on appelle le bilan de masse d'une calotte, c'est-à-dire quelle est la quantité de neige qui tombe, quelle est la partie qui fond, où se situe la limite, en fait, là où le glacier s'épaissit et puis là où il s'amincit, ce qu'on appelle la ligne d'équilibre du glacier. Donc on a des informations précises, je dirais, depuis une vingtaine d'années, mais pas partout. Et on a des informations, des indices pour les périodes plus anciennes.
Alors qu'est-ce qu'on peut en dire justement sur cette diminution de,
Le constat, il est clair. Il est que le réchauffement spectaculaire, hein, plusieurs degrés en quelques dizaines d'années, se manifeste par une augmentation de la fonte sur les zones côtières. D'abord, on l'a vu plutôt au sud, et puis maintenant, on le trouve jusqu'au nord du Groenland. On observe également donc des eaux plus chaudes dans les fjords qui vont attaquer par en dessous les langues de glace flottantes. Mmh. Et ça conduit à une accélération de leur glissement et donc du drainage finalement de l'Inland 6 sur le continent. Donc ça, ce sont des choses qu'on observe, mais qui sont marquées par une forte variabilité, parce que ça va dépendre des conditions météo, finalement, de l'année. Ça va dépendre des grandes gires, des courants marins, de l'océan Atlantique, qui varient d'une décennie à l'autre. Mais il y a une tendance de fond qui est là, et on s'attend, dans un climat qui continuerait à se réchauffer, à une augmentation forte de cette fonte.
Ouais. Avec une conséquence inattendue de la fonte des glaces, c'est une base nucléaire secrète de l'armée américaine qui est en train d'émerger progressivement à cause du réchauffement climatique. Jean Mallory, qui a fondé justement le Centre d'études arctiques, régissait hier, on lui a passé un petit coup de fil à cette information.
Nous sommes sur le grand glacier du Groenland, qui est grand comme 5 fois la France. Les Américains, sous couvert de faire des recherches climatiques et glaciologiques, ont en fait créé à Camp Century une base secrète extraordinaire avec 4000 kilomètres de tunnels où on entreposait 600 missiles nucléaires. Ceci date de juin 59. L'intention était naturellement d'avoir une portée plus facile en direction de Moscou ou de Pékin. Ces tunnels, il en était 21, étaient sous 30 mètres de glace. Les autorités militaires américaines ont convenu en octobre 1960, que cette base n'avait pas de sens. Et ils l'ont donc supprimée. Ils ont retiré les missiles nucléaires, mais ils ont laissé l'ensemble qui avait été creusé en l'état. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces 55 hectares, on découvre avec le réchauffement accéléré que d'abord les voûtes s'effondrent et qu'il y a 200 000 litres de fuel contaminé, qu'il y a des neiges et des glaces qui sont elles-mêmes contaminées sur le plan nucléaire, les eaux usées, etc. Et tout ceci va couler et commence à couler dans la mer du nord de Thule, c'est-à-dire la baie de Melville. C'est un scandale absolu.
Donc c'est une catastrophe annoncée, Jean Mallory.
Mais c'est une catastrophe annoncée, et donc on va vers un grand malheur. C'est tout l'Arctique qui est menacé. Et c'est mon devoir, et c'est ce que je fais, au titre de l'UNESCO, de saisir les autorités suprêmes de l'UNESCO pour qu'il y ait une enquête tout à fait diligente qui soit conduite et que l'on décide. Ce qui est essentiel, c'est de placer ces zones dans un espace que l'on pourrait considérer comme une zone de sanctuarisation des secteurs fragiles. Déjà, le nord-est du Groenland relève de cette sanctuarisation, mais il faut l'élargir à tout le nord du Groenland.
Voilà, Jean Mallory, donc, qui a fondé la collection Terre Humaine, hein, qui publie d'ailleurs une nouvelle édition d'Ultima Thule aux éditions du Chêne, qui est l'histoire des explorateurs, hein, du pôle Nord depuis le 18e jusqu'à nos jours. Jean-Michel Huctin, une réaction sur cette contamination annoncée et puis sur ces préconisations de sanctuarisation?
Bah d'abord, le fait que cette base, que certains connaissaient l'existence, apparaît plus vite que prévu, par la fonte des glaces, donc une fonte qui s'accélère et des choses dont on pensait pas avant possibles arrivent. D'autre part, une responsabilité aussi, je pense beaucoup à ça. Le gouvernement groenlandais lui-même a appelé les Américains et les Danois à prendre leurs responsabilités. Ouais. Les Américains, pour avoir laissé cette poubelle, ce grand danger, et les Danois pour l'avoir autorisé, parce que à l'époque où ça s'est fait, c'était les Danois qui étaient responsables du Groenland. Donc voilà, ils ont protesté et ils ont raison.
Valérie Masson-Delmotte.
Juste pour dire qu'aujourd'hui, les normes en fait, environnementales sont beaucoup plus strictes pour toutes les opérations de terrain. Mmh. Et en particulier, le gouvernement groenlandais est très vigilant à ce que même des opérations de carottage laissent le moins de traces possibles dans la glace.
Mmh. Sauf que là, il va falloir évidemment agir sur ce triste héritage. On se retrouve dans un instant pour poursuivre notre voyage au Groenland. Nous irons voir donc ce que nous racontent les grains de pollen. Et puis nous parlerons bien sûr des Groenlandais après Serge Gainsbourg, Marie-Lou sous la neige.
Marie-Lou repose sous la neige, et je me dis, et je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loupe en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. Oh, Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
My name is Michael. I'm the captain on the ship.
Je m'appelle Michael, je suis le capitaine de ce navire. Nous allons longer la côte ouest du Groenland, c'est un peu notre itinéraire habituel. Cela fait 30 ans que je navigue dans les eaux du Groenland. Mon constat dans l'ensemble, c'est qu'il y a eu un réchauffement. Alors, ce que je constate, c'est moins de neige l'hiver, bien évidemment de manière générale. Il est évident que certains hivers, on va avoir beaucoup de neige, beaucoup de glace, mais de manière générale, je dirais qu'en moyenne, on a moins de neige, moins de glace, des températures un peu plus élevées, et plus particulièrement sur la partie sud.
Voilà, documentaire Tout un monde sur le Groenland, tourné donc avec ce pêcheur en 2010. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que le résumé est le bon là dans ce que vous venez d'entendre ?
Ah oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment frappant à quel point aussi les Groenlandais, ils ont une attention particulière portée à l'environnement. Oui. Ce qui est assez différent de ce qu'on peut percevoir quand on est nous, Européens, habitant en ville, par exemple.
Ouais. Jean-Michel Luctin, ça fait combien de temps maintenant que vous allez là-bas ?
Ça fait une vingtaine d'années.
Ouais. Et vous aussi, vous avez observé ces changements par des détails particuliers ?
Ben, je suis même arrivé au Groenland à la fin des années 90, à l'époque où on a commencé à beaucoup parler du changement climatique. Ouais. Et j'ai vu moi-même la banquise reculer jusqu'au milieu des années 2000, 2005, 2003, 2005, où j'ai même vu l'île où j'allais déjà depuis quelques années ne plus avoir de glace tout autour, les pêcheurs-chasseurs ne pouvant plus sortir en traîneau à chien. Ouais. Et j'ai pu constater aussi que ils ont un grand souci de pouvoir se déplacer parce que c'est une glace fragile pour leur traîneau.
Donc dangereuse.
Mais c'est aussi quand même un petit peu de glace qui les empêche de sortir en bateau.
Ouais.
Donc ils sont dans une situation où ils ne peuvent plus sortir, où ils ne peuvent plus vivre leur culture, où ils se demandent que vont-ils faire de leur chien de traîneau.
Ouais.
Voilà, c'est l'un des lieux au monde où le chien de traîneau est toujours encore très vivant.
La question environnementale, climatique, elle est réelle là-bas pour les populations? C'est-à-dire que les gens sont préoccupés, les gens s'engagent, les gens se mobilisent.
Les gens l'observent. Et j'ai, comme je disais, au milieu des années 2000, j'ai pu, en même temps que je constatais le recul de la banquise, constater le changement d'opinion de la population qui parlait d'un cycle naturel qui peut-être se reproduisait. Les Inuits n'avaient pas encore accès à toutes les connaissances scientifiques.
Donc l'impact humain est clairement...
L'appréciation de leur environnement, c'est quand même l'environnement local, le leur.
Ouais.
Et donc, j'ai pu voir comment cette conscience que quelque chose de nouveau, de jamais vu apparaît, est arrivé. Et aujourd'hui, ils sont même, ils prennent les micros dans le monde entier
pour dénoncer
cette situation.
Dans cet endroit stratégique, une fois de plus.
Et comme le dit l'une d'entre eux, le droit d'avoir froid.
Ouais. Valérie Masson-Delmotte.
Alors, sauf erreur de ma part, le terme même en groenlandais qui est utilisé pour désigner le climat, c'est un terme intéressant parce qu'il a plusieurs sens.
Scylla. On l'a même mis en exergue de notre livre. Scylla, qui signifie à la fois le climat, l'air, l'intelligence, la raison. Voilà, c'est-à-dire en fait cette conscience que nous humains sommes liés de façon intime, dit Jean Mallory, de façon intime à l'environnement. Cette conscience que eux ont quand même gardée et que nous, citoyens des grandes villes, on a un petit peu oublié. Ouais.
Allez, trois questions d'auditeurs avant de parler du pollen et de ce qui nous raconte justement sur à la fois l'environnement et les populations. Jean-Paul demande la présence du Gulf Stream, Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'il joue un rôle sur le Groenland?
Alors le Gulf Stream, pas directement, mais c'est la dérive nord-atlantique qui apporte des eaux chaudes vers l'Atlantique du Nord et puis qui va affecter le courant de l'ouest du Groenland. Et d'autre part, à l'est du Groenland, on a un autre courant qui s'appelle le courant de l'est du Groenland qui lui ramène des eaux froides de l'Arctique. Et effectivement, le Groenland est censé à ce qui se passe de ces deux côtés-là.
Paul demande jusqu'à quelle profondeur on peut faire des forages justement pour relever ces carottes de glace.
Alors dans la glace, c'est à peu près 3000 mètres de profondeur, d'épaisseur de glace. Et le carottage le plus ancien permet de remonter aujourd'hui jusqu'à environ 130 000 ans. Et c'est pas l'endroit le plus profond.
Non, on fait plus en Antarctique en tous les cas. On va dans les glaces beaucoup plus profondément.
Alors en Antarctique, on peut aller jusque... Aujourd'hui, on peut aller jusque près de 4000 mètres de profondeur dans certains endroits. Et l'enregistrement le plus ancien, c'est 800 000 ans.
C'est
et on espère aller jusqu'au-delà d'un million.
Voilà, c'est ça. Catherine demande, est-ce que vous ne trouvez pas scandaleux, paradoxal, que des agences multiplient les voyages vers les glaces pour admirer les paysages somptueux qui seront tôt ou tard détruits par la multiplication des transports? Alors, Émilie Gauthier, puis Jean-Michel Huctin.
Oui, bon, c'est pas encore très très touristique le Groenland, la zone d'Ilulissat, où effectivement il y a des touristes qui viennent voir les glaciers. On voit quelques bateaux de croisière aussi de plus en plus. J'ai vu ça une fois dans le sud du Groenland où toute l'attention était focalisée là-dessus. Est-ce que le bateau allait rentrer jusqu'au fond du fjord d'Éric le Rouge? Donc là, tout le monde attendait avec appréhension et tout le monde était déjà déguisé en viking pour attendre les touristes.
Jean-Michel Huctin.
Alors oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de croisières au Groenland, ça c'est une réalité. D'un autre côté, ça permet peut-être au niveau mondial de favoriser la prise de conscience en voyant cet environnement qui est touché par le changement climatique.
Bon, espérons que ça puisse au moins servir à cela, effectivement. Émilie Gauthier, donc on s'intéresse avec vous aux écosystèmes terrestres, et puis aux peuples qui ont justement visité le Groenland comme les Vikings. Ils ont laissé beaucoup de traces de leur présence sur place, justement.
Alors, il y a plusieurs populations ont visité le Groenland, les populations paléo-esquimaux depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, donc il y a eu plusieurs migrations depuis le continent américain, Indépendance, Dorset, Sakak, etc. Et puis, c'était des populations de chasseurs, pêcheurs, donc peu d'influence sur leur environnement. Autour de l'an 1000 arrive Éric le Rouge et donc les Vikings ou les Norrois, viking est un peu péjoratif. Les Scandinaves utilisent très peu le terme de viking. Ils parlent de Norse en anglais, donc des Norrois. Et donc, eux, ils vont développer des activités agropastorales. Donc, il n'y a pas grand-chose à transformer dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'arbres à couper. Les arbres font 30 cm de haut, donc ça va assez vite. Par contre, ils vont développer de l'élevage. Ils vont apporter des moutons, des vaches, des cochons, des chèvres. Ils vont créer des pâtures à foin. Ils vont élever leur bétail, le manger. Et donc, entraîner une érosion des sols qu'on va percevoir dans les sédiments, et puis des changements environnementaux. Alors, ils apportent aussi des plantes qui n'existaient pas du tout avant, comme le pissenlit, comme l'oseille, comme d'autres plantes. Et donc, ils vont implanter ces nouvelles variétés dans l'écosystème groenlandais.
Ouais, et leurs activités sont directement liées aussi au climat. On peut lire ça aussi dans ces sédiments que vous retrouvez ?
Bien sûr. Alors, les Vikings ont de la chance. Ils arrivent au moment de ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval. Donc, une période qui est un peu plus tempérée. Et donc, ils arrivent à ce moment-là. Par contre, ils vont vivre un refroidissement progressif qui va les amener vers ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Entre le 14e et le 19e siècle, le climat était beaucoup plus froid. Et donc, ils vont souffrir de ce petit âge glaciaire. Et petit à petit, d'ailleurs, ils vont abandonner l'agriculture. On le voit très bien dans les paramètres qu'on étudie dans les sédiments lacustres. Ils abandonnent l'agriculture, mais les archéologues nous disent, pourtant, ils sont toujours là. Et on voit, notamment en étudiant certains paramètres dans les ossements, comme le carbone 13 qui renseigne sur l'alimentation, on voit que autour du 13e siècle, ils changent d'alimentation. Ils arrêtent de manger leurs moutons, leurs vaches. Ouais. Ils mangent du phoque et du poisson. Ouais. Ils sont devenus des chasseurs et des pêcheurs.
Et ça, c'est lié très clairement à un changement climatique.
Et c'est lié au changement climatique, alors pas que, parce que effectivement, il y a le changement climatique, il y a une certaine part du déterminisme climatique. Mais il y a des problèmes aussi sociaux, économiques, politiques, de relations avec la Scandinavie qui est en train de se mettre en place avec l'Islande. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs facteurs qui jouent dans cet abandon progressif du Groenland. Ouais.
Qu'est-ce qui fait justement que les Vikings vont partir un jour?
Ils étaient certainement très peu nombreux à la fin. Ça n'a jamais été une colonisation, enfin une population énorme. C'est 2000, 3000 personnes au grand maximum. Donc petit à petit, ils vont repartir vers l'Islande. En plus, au XIVe siècle, il y a des épidémies de peste en Scandinavie. En Islande, ça crée de nouveaux espaces à habiter. Donc certainement, ils vont retourner petit à petit en Islande et en Scandinavie. Ils n'ont jamais réussi à aller jusqu'au bout de leur processus parce qu'ils sont adaptés quand même à ce changement climatique. Mais pour parfaire leur adaptation, ils auraient dû avoir un mode de vie complètement inuit, c'est-à-dire devenir non plus sédentaire, mais itinérant et se déplacer.
Ouais. Et donc cette histoire environnementale, vous la lisez dans ces traces, dans ces sédiments, dans ce pollen?
Oui, alors on travaille beaucoup quand même avec les archéologues. C'est vrai que nous, d'un côté, on va aller faire les forages dans les lacs, une expédition, il faut envoyer le matériel, on reste là-bas pratiquement un mois, on ne sait jamais trop ce qu'on va trouver, on a très peu de renseignements sur les lacs, et on travaille évidemment en étroite collaboration avec les archéologues danois qui, eux, ont prospecté, fouillé les sites archéologiques, qui ont réalisé des analyses sur les ossements, sur la faune retrouvée sur les sites, donc on a vraiment besoin d'eux pour raconter une histoire.
C'est ça. Et pour lire dans cette mémoire qu'on évoquait.
Et pour lire dans cette mémoire. On a besoin de toute manière des données archéologiques. Et eux, on apporte un éclairage que eux, dont ils ont besoin aussi.
Voilà, donc un travail pluridisciplinaire, comme en témoigne également cet ouvrage. C'est la raison pour laquelle vous avez convoqué autant de scientifiques, dont des Groenlandais, justement. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler de façon très étroite avec eux? Est-ce qu'ils vivent encore sur place, Jean-Michel Huctin? Et quelles sciences sont développées?
Je suis très heureux d'avoir parmi les 100 auteurs du livre.
Il y en a 10, c'est ça?
Il y en a 10 qui sont groenlandais et quelques-uns en plus qui ne sont pas groenlandais, mais qui sont danois, mais qui vivent et qui sont mariés sur place depuis des dizaines d'années. Et ce sont des très grands spécialistes.
Quels scientifiques alors travaillent sur place? Beaucoup sur justement le domaine environnemental?
Alors il y a le domaine environnemental et puis surtout les sociétés, parce que les Groenlandais sont vraiment attachés à retrouver l'harmonie qui était la leur avant d'être confrontés à tous ces défis, et ils ne sont pas que climatiques.
Oui.
Voilà, ils ont à faire face à un avenir de plus en plus incertain, mm-hmm. Avec tout en essayant de se reconstruire après toutes ces années de colonialisme, ouais. et puis à acquérir la capacité à devenir indépendant.
Voilà, d'où l'importance de recueillir aussi la parole hein, de ces habitants voilà, qui se sont transmis de génération en génération.
Nous faisons des carottages
histoires.
Aussi, mais c'est plutôt dans la mémoire humaine.
C'est ça, dans le cerveau.
Voilà, donc on
sans
essaye...
prélèvement. Hein,
ça s'appelle
direct.
Des interviews.
C'est ça.
Et ça nous permet de revenir, peut-être pas aussi longtemps en arrière que Valérie ou Émilie, mais en tout cas de savoir ce qui est important pour les gens eux-mêmes. Parce que pour moi, c'est ça. C'est les comprendre aussi de manière à pouvoir les aider. Je suis d'abord devenu anthropologue en vivant à leur côté. Je ne sais pas, c'est mon histoire personnelle, mais d'un autre côté, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'eux puissent s'exprimer et que ce que nous on fait puisse leur être utile. Et donc voilà, alors aujourd'hui, ils essayent, je le vois bien, ils essayent de s'adapter, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Ils sont connus dans le monde entier, ils sont connus dans l'histoire comme étant une population qui a été capable de s'adapter aux conditions les plus difficiles. Aujourd'hui, les défis sont climatiques, ils sont politiques, ils sont économiques aussi. Donc c'est ce qu'ils essayent de faire. Et d'un autre côté, ils essayent de voir dans ce monde dont ils ne décident pas l'avenir, dont ils ne sont pas responsables des catastrophes, comment eux peuvent vivre mieux.
Allez, justement, on va écouter encore ce documentaire ethnologique important, Les derniers rois de Tulé avec les Inuits du Pôle, réalisé par Jean Mallory. Et là, c'était en 1969.
Nous sommes ici à Tulé avec les Esquimaux polaires les plus nordiques. C'est la fin de l'hiver. Le jour se lève après une longue et dure nuit de 3 mois. Il fait moins 30 degrés. Les chasseurs se sont dispersés pour assurer leur survie. Ces animaux humains, ainsi ont-ils été jugés lors des premières rencontres, s'efforcent dans un trou de glace, au travers d'une épaisse banquise de 2 mètres, de pêcher des poissons qui ressemblent aux limandes de nos régions. À des signes imperceptibles, l'Esquimau apprécie dans l'eau transparente la richesse poissonneuse de ses fonds d'argile. Si cet examen commun est favorable, alors d'autres lignes seront disposées à plusieurs trous et une journée plus tard, relevées.
Voilà, 1969. C'était une découverte aussi hein, pour la France, par exemple, de savoir ce qui se passait là-bas au Groenland avec les Inuits.
Tout à fait, c'était une découverte de leur mode de vie, de l'évolution, parce que on a encore beaucoup de stéréotypes en France sur cette population. Ils vivent toujours dans des igloos, ils font du kayak, etc. Donc voilà. Et puis Jean Mallory, comme avant lui Paul-Émile Victor, eh bien ils sont à l'origine de nos vocations ici à nous trois, et puis à plein d'autres. Voilà.
Et d'ailleurs, vous avez réservé une place à Jean Mallory aussi dans cet ouvrage. Hein. Valérie Masson-Delmotte, vous souhaitiez réagir tout à l'heure.
Jean-Michel a écrit un chapitre magnifique sur l'éducation au Groenland, entre justement l'éducation traditionnelle dans les familles et puis l'éducation d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'interrogations finalement qui transparaissent dans plusieurs chapitres du livre. Par exemple, celle qui a été exprimée dans des interviews de petits villages où de jeunes filles disaient c'est pas parce que mon père est chasseur de phoques que moi je serai une femme de chasseur de phoques. Et ça illustre bien toutes les questions en fait qui peuvent se poser. Quel sera le contexte économique pour que ces sociétés qui vivent de la chasse aux phoques puissent continuer à vivre, avec par exemple la situation vis-à-vis de l'Union européenne, mais aussi quels seront les métiers pour demain, quelles seront les opportunités pour que cette jeune génération formée puisse avoir participé au développement de ce pays.
Avec toute une génération qui est très dépendante au contexte géopolitique hein, du Groenland, on voit bien, et là c'est lié directement au changement climatique, parce que c'est une terre extrêmement convoitée aujourd'hui, avec des terres rares, des ressources très importantes, et ça va changer la donne aussi dans les décennies qui viennent.
Alors ça va changer la donne. Ça va changer la donne, c'est la question qui se pose, c'est un peu un Eldorado annoncé dont on attend toujours, eux-mêmes attendent toujours les effets bénéfiques. En fait, tout dépend du marché mondial, comme on dit, hein, de l'évolution des prix. Mais ce que je veux dire, c'est que cette jeunesse, et c'est ça qui me fascine aussi au Groenland, c'est que cette jeunesse, elle regarde un peu la tradition, certes, mais elle est surtout ouverte sur le monde d'aujourd'hui, le monde internationale. C'est une jeunesse qui est sur Facebook et qui dialogue avec qui dialogue avec le monde entier.
Ouais, Émilie Gauthier pour terminer.
Et un développement de l'agriculture aujourd'hui, ils sont très fiers de produire 2 tonnes de pommes de terre par an et d'avoir des moutons depuis 1920, il y a une réintroduction de l'agriculture. Exactement à l'endroit où les Vikings s'étaient installés 1000 ans auparavant.
Ouais. Jean-Michel Luctin, on peut terminer avec quelques mots de groenlandais, s'il vous plaît, pour qu'on entende quand même la langue, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour nous souhaiter, je ne sais pas moi, une bonne journée
Ayungilatit, kanoripit, ayungilangut, neryupunga, tamata, nuanorpungut. Voilà, je vous demande comment ça va, un peu comme j'ai commencé l'émission. Et puis, j'espère que nous sommes tous heureux de cette émission, y compris les auditeurs.
Eh bien, écoutez, en attendant, on pourra lire ce livre qui paraît aux éditions du CNRS pour en savoir plus justement sur cette terre que vous aimez tant et qui fait l'objet là aussi de beaucoup de travaux de scientifiques autour du climat, de l'écologie et de la société. Ça s'appelle tout simplement Le Groenland, CNRS édition. Valérie Masson-Delmotte, Jean-Michel Huctin et Émilie Gauthier, merci beaucoup d'être venus. On était ravis dans La Tête au Carré.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec Le Supplément, Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Et aujourd'hui, vous nous parlez à nouveau de testicules. C'est une obsession chez vous.
Hein. Oui Mathieu, mais je sais que ça vous manquait aussi. Alors, y a-t-il une saison plus propice qu'une autre pour se tordre le testicule? Alors avant de répondre à cette question apparemment saugrenue...
C'est ça votre question?
Voilà, c'est ça ma question. Il faut expliquer ce qui se cache derrière. Tout d'abord, n'imaginez pas que l'expression torsion testiculaire décrit une roubignole tordue comme un petit pain qu'on a voulu couper en deux. Si torsion il y a, c'est celle du cordon spermatique qui est un peu la gaine technique de la coucougnette. C'est par là que passent les vaisseaux sanguins, les nerfs et le canal dans lequel se jettent les spermatozoïdes en sortant de leur usine. Or, il arrive que le testicule tourne autour de ce cordon, ce qui bloque l'arrivée du sang un peu comme un tuyau d'arrosage tordu qui ne laisse plus passer l'eau.
On voit bien, oui.
On voit bien. Ce qui, paraît-il, provoque une douleur indicible, une nausée, voire des vomissements. Le tout montre bien que la nature se débrouille pour nous rappeler à quel point les bijoux de famille sont précieux et que la boîte à gamètes est quasiment la seule justification à notre existence sur Terre. La torsion testiculaire constitue une urgence médicale car sans intervention, le testicule nécrose en quelques heures et il faut l'enlever.
Mais c'est affreux ça, mais c'est dû à quoi exactement?
Alors la recherche n'a pas d'explication bien claire, mais des études ont mis en cause le crémastère. Alors pour ceux qui n'auraient pas fait anatomie première langue, le crémastère est un muscle qui, lorsque la température extérieure est trop basse, remonte les testicules près du corps pour les mettre au chaud. Voilà, ça, vous avez ça à la piscine aussi. Des chercheurs ont donc émis l'hypothèse que la torsion était provoquée par un crémastère hyperactif qui ferait danser trop vigoureusement les valseuses quand souffle la bise. D'après cette hypothèse, l'hiver serait donc la saison sensible pour cette pathologie. J'arrive donc à ma question.
Oui, merci.
Malheureusement, les études épidémiologiques à ce sujet sont contradictoires. La dernière est parue en décembre 2015 sous la signature de 7 urologues turcs qui ont examiné les données recueillies en 10 ans au CHU d'Ankara. Tout a été passé au peigne fin, l'âge du patient, le côté de la torsion, la couleur du testicule après ouverture du scrotum, la présence ou non d'un œdème et bien sûr la date de l'incident qui a été mise en corrélation avec les archives météorologiques.
Ah, quel a été le résultat alors?
Alors sur les 56 cas recensés, 9 ont eu lieu en été, 14 à l'automne, 15 en hiver et 18 au printemps, pas de préférence particulière pour l'hiver donc. Mais les auteurs de l'article notent, en accord avec une étude japonaise, qu'une grosse majorité des cas est survenue quand la température extérieure était inférieure à 15 degrés. Mais ils ajoutent aussitôt qu'ils ignorent quand le testicule a subitement crié au secours si les patients se trouvaient dehors ou dedans, ou bien s'ils se tenaient tout nus devant la porte ouverte de leur réfrigérateur.
Bon, on n'est pas tellement plus avancé, mais vous n'avez pas votre pareil pour nous parler des testicules, Pierre Barthélémy. On retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Et Pierre Barthélémy qui nous rejoint mardi prochain. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Ridard.
Il est question d'affaires sensibles après les infos. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Vous vous souvenez des tentes rouges le long du canal Saint-Martin, les enfants de Don Quichotte qui étaient dans la tradition de l'abbé Pierre, hein, tout simplement pour lancer un cri d'alarme contre la pauvreté, les mal logés, les pas logés du tout, les SDF. Et nous reviendrons donc sur cet épisode avec le journaliste de Libération Tonino Serafini qui sera notre invité. Dans le cadre du partenariat que nous avons avec Libération tous les 15 jours. Avec lui, nous reviendrons sur cette mobilisation qu'il a couverte pour ce journal, mais aussi sur la situation actuelle, parce que ça, c'est une sorte de droit de suite. On en est où aujourd'hui, 10 ans après?
Et on fera le point donc avec vous dans Affaires sensibles après les infos.